À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association Inis Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition,
chansons et gastronomie.
Bonsoir, Serge, et bonsoir à nos invités, mais on ménage le suspense.
Voilà, on les présentera tout à l'heure.
Et monsieur le technicien, bonsoir, Laurent.
Technicien de
Couleur FM 97.1 pour la dernière émission de l'année. L'année 2014, 100 ans. Alors, on va commencer par l'actualité. De quoi voulez-vous qu'on parle, monsieur Chambon ?
Ben, c'est toi qui as préparé.
Non, alors quelques échos de presse. Allez, on va faire une mini-revue de presse. Bon, on en a parlé un petit peu en France, mais on en parle évidemment beaucoup en Italie et surtout à Rome. On va beaucoup parler de Rome et de la région de Rome aujourd'hui. Hein. Et donc, le scandale, on peut appeler ça comme ça, de Mafia Capitale, qui, comme d'habitude, mêle dans des cas comme ça beaucoup de gens, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des activistes de tous bords. Et donc, il y a eu une manifestation devant la mairie de Rome récemment, de gens de Romains eux-mêmes et puis de quelques partis politiques pour demander à ce qu'on fasse un grand ménage. Et puis le président du conseil lui-même, Massimo Renzi, a dit qu'on ne laissera pas Rome aux voleurs. Alors tout ça est parti d'un personnage qui était pourtant un petit peu connu, Massimo Carminati, parce que dans le passé il avait eu quelques soucis avec la justice, mais bon, visiblement il s'en était sorti. Et alors on ne sait pas encore démêler le vrai du faux, la rumeur, parce qu'évidemment dès qu'il y a des scandales politico-financiers, il y a des tas de suppositions, puis suivant qu'on soit d'un parti ou d'un autre, ben, si on pouvait tomber le parti opposant, ça serait pas mal.
Les suppositions sont plus ou moins importantes.
Alors un des mouvements qui a l'air le plus de réclamer un grand ménage, c'est le mouvement des Cinque Stelle, alors qu'à l'intérieur même des Cinque Stelle, il y a quelques tensions en ce moment, puisque Beppe Grillo commence à être en délicatesse avec notamment les députés de son parti. Le maire actuel, Ignazio Marino, chaussée grand Dieu qu'il n'est pas concerné. A priori, il semblerait qu'il pourrait ne pas être concerné. Le prédécesseur, par contre, Gianni Alemano, ça a l'air moins évident. Et Gianni Alemano, qui était un grand ami d'un personnage très illustre en Italie depuis 20 ans. Et puis, alors on dit qu'il aurait peut-être, il serait peut-être parti avec des valises.
En vacances
En vacances en Argentine, oui, mais avec des mallettes pleines de billets. Bon, après, ça a été démenti. Bon, tout ça pour dire que pour le moment, les choses ne sont pas clarifiées, elles sont sans doute. Il faudrait du temps pour les clarifier. Alors après, les opinions, comme je le soulignais, suivant de quelques partis que l'on soit, on va avoir un avis sur le parti opposé, évidemment. Et par exemple, Alemano, lui, dit « Moi, je suis jamais allé porter de l'argent en Argentine. » Enfin, peut-être effectivement qu'il est allé en touriste, comme tu dis, mais non, moi, je ne suis pas au courant. Hein. Le maire de Rome actuel, qui est du PD, donc du même parti que Matteo Renzi, lui, jour sur ses grands dieux, qui ne connaissait même pas les personnes dont on parle. Renzi a quand même mis sous contrôle son propre parti à Rome pour que la justice puisse avancer aussi. L'Église, elle dit que il y a des scandales, mais il faut aussi
chez nous aussi.
Donc. Il faut aussi positiver, on va dire, et puis voir les choses plus agréables à entendre, mais que il faut effectivement faire des enquêtes poussées, ce que tout le monde réclame, hein, de toute façon. Zingaretti, qui est le président de la région Lazio, dit que qu'il n'a pas peur du tout et que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Le maire actuel, alors c'est le parti d'opposition, notamment le Forza Italia, dit « Ah oui, mais il semblerait que les élections aient été plutôt truquées et tout ». Enfin, tout ça pour dire que en ce moment, tout le monde s'exprime, mais À part le rôle évident de ce Carminati, rien n'est bien clair au niveau de qui a fait quoi. En tous les cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une corruption à grande échelle. Voilà, sinon dans la presse, on parle aussi beaucoup ces jours du décès de Pino Mango. Alors Pino Mango, c'était un auteur-compositeur-interprète italien qui avait 60 ans. Et il est mort sur scène. Il était dans sa région, il est de la Basilicata. La Basilicata, c'est une région au sud de l'Italie, qui est la région de la maman de Georges Brassens, d'ailleurs. Ah. Et donc, il était là pour un concert de soutien à la Guinée-Bissau, donc un projet humanitaire. Il est monté sur scène comme d'habitude, il a commencé à chanter comme d'habitude. Et au moment d'interpréter un de ses succès les plus connus en Italie, qui s'appelle Oro, il a présenté cette chanson en disant au public, vous la connaissez bien, donc vous la chantez avec moi. Tout le monde a commencé à chanter cette chanson, et en plein milieu de la chanson, il a commencé à avoir des soucis, et il est mort. Il est mort sur scène, en fait. On a essayé de le sauver, mais non, il avait donc 60 ans, mais en Italie, ça a eu un écho assez impressionnant, pas seulement du monde de la musique d'ailleurs. Bah déjà la façon dont il est décédé, puis parce que aussi il était connu. Voilà, sinon on parle beaucoup évidemment de Noël et notamment des fameuses crèches de San Gregorio Armeno, c'est la rue de Naples où il y a tous les, on peut pas les appeler exactement des santons, mais c'est le même principe, des petites statuettes. Alors le principe de ces statuettes qui remonte à des siècles, maintenant c'est que sont mis en scène des, hormis les personnages classiques, des personnages du monde politique, sportif, théâtral, artistique, italien ou étranger d'ailleurs. Et là, il y avait une interview de Marco Ferrigno, qui est considéré comme un des maîtres de l'art, on va dire, parce que c'est un art, de ces petites statues. Et il dit que celui qui bat tous les records cette année, parce que ces statues après se vendent aussi, à la bourse des statues, c'est Matteo Renzi, le président du conseil, qui a la statue qui visiblement est la plus courue, avec celle du pape Francesco, mais il y a aussi un rappeur italien qui s'appelle Rocco Hunt. Il l'a pris en anglais. Paolo Sorrentino, qui est connu là, comme metteur en scène, qui est napolitain, lui. Et puis, il y a beaucoup d'autres
donc
personnages.
Donc, c'est une sorte de baromètre de popularité.
Absolument. Alors, soit pour mettre en valeur la personne, soit pour s'en moquer. Suivant comment est constituée la statue, parce que souvent, elles sont assez humoristiques. Et il y a même des gens... Il y a par exemple aussi le fameux coup de tête Zinedine Zidane et Materazzi. Il y a le pape, oui, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage, Angela Merkel, Beppe Grillo, De Laurentiis, qui était aussi un producteur de cinéma. Puis le monde de la chanson, Lucio Dalla, Michael Jackson, Vasco Rossi. Enfin voilà. Donc il y a une sorte de popularité, de bourse de la popularité. Par contre, ces crèches napolitaines, donc là j'extrapole un peu, sont vraiment intéressantes. C'est un art qui est depuis, encore une fois, qui remonte largement à un siècle aussi reculé que celui des santons. Voilà, mais c'est donc très lié après à l'actualité. Voilà. Donc, puisqu'on parle de Noël, on va commencer à écouter une première chanson. Alors, aujourd'hui, on va prendre des interprètes napolitains. Napolitains, non, romains.
Romain, oui.
Je croyais que tu allais me reprendre.
Ben oui, mais...
Romain. Donc, tu ne suivais pas. Donc, on va entendre Francesca Trenta.
Ils viennent du Lazio, peut-être.
Voilà, très bien. qui viennent du Lazio, comme Francesca Trenta, qu'on a invité récemment à un autre festival, donc Estrade. Donc Francesca Trenta là va interpréter un chant de Noël. Pourquoi je disais napolitain? Parce que elle est romaine, mais c'est un chant qu'on trouve dans la région de Naples notamment. Donc lorsque le prêtre arrivait pour annoncer la naissance de l'enfant Jésus, tout le monde reprenait dans les églises ce chant, et c'est donc un chant de Noël qui peut être décliné sous différentes formes. Donc là, on va l'entendre par Francesca Trenta. Voilà, donc Fa la nana Gesù Bambino par Francesca Trenta. Donc, comme tu le disais si bien, on va parler du Latium.
Tout à fait.
Donc, le Latium ou Lazio en italien. Et donc, c'est en Italie centrale, la capitale du Latium.
C'est la région de Rome.
La région de Rome, tout à fait, puisque Rome est capitale. Donc, est bordée par la Toscane, l'Ombrie, les Abruzzes, le Molise, une région que tu connais bien.
Et la mer.
La Campanie et la mer tyrrhénienne, bien sûr. Alors, c'est une région qui est dirigée, ben, on le disait tout à l'heure, par M. Zingaretti, qui est du Parti démocrate, qui est président de région, donc depuis 2013 jusqu'à 2018, si tout se passe bien, et qu'il y a un peu plus de 5,5 millions d'habitants, qui a 5 provinces. La province la plus importante, c'est la province de Rome, qui comprend 121 communes. Ensuite, il y a la commune.
Alors, les provinces, c'est les départements.
Oui, géographiquement, même si tout ça est en train aussi de changer en Italie, visiblement, oui. Changera ici. Et donc, Rome a 121 communes, la province de Rome. Après, la province de Frosinone, et que la région connaît très bien ici, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés pour nous qui viennent de Frosinone. Et entre ici et Lyon, il y a beaucoup d'immigrés de Frosinone, qui elle a 91 communes, cette province. Ensuite, il y a la province de Rieti, avec 73 communes, de Viterbe avec 60 communes, et la province de Latina, qui est la plus petite, la plus au sud, et qui a 33 commune. Voilà un petit peu des quelques caractéristiques du Latium. Alors, on pourrait partir sur l'histoire et le tourisme dans cette région, mais évidemment, avec Rome, et pas seulement Rome d'ailleurs, avec l'histoire des Romains et des Étrusques,
je pense mettre de côté.
Il faudrait une année, quoi, d'émission. Oui, hein. Voilà, alors ça me permet, sur Couleur FM 97.1, d'introduire... Monsieur Serge qui va donc voilà, présenter ses invités.
On va faire plus original que l'histoire de Rome. On a choisi de faire une émission avec des comités de jumelage. Et nous avons deux personnes du comité de jumelage de Saint-Quentin-Falavier, Fabienne et Odile. Et on va parler donc du jumelage de Saint-Quentin-Falavier avec la ville de...
Gallicano del Lazio.
Gallicano del Lazio.
Donc déjà, la région est située.
Voilà. Tout à fait.
Alors, d'abord, présentez-vous.
Eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis Fabienne. Je suis actuellement la présidente du comité de jumelage de Saint-Quentin. Et je fais partie du comité depuis 8 ans, à peu près. Donc, voilà.
Donc, on peut le dire, Fabienne Alphonsine.
Tout à fait.
Et Odile ?
Alors, Odile Bedeau, je suis un tout petit peu plus ancienne au comité de jumelage, puisque moi, j'ai adhéré un petit peu par hasard en 1996, après le 25e anniversaire... du jumelage de Saint-Quentin et de Fragericht. Et depuis 2008, je suis secrétaire avec une petite interruption il y a 2 ans et j'ai repris le secrétariat cette année.
D'accord. Alors en 2 mots, parlez-nous un petit peu de Saint-Quentin-Falavier. Enfin, moi, j'ai passé quelques journées depuis 1990 à 2005, si j'y travaillais. Mais il n'y a pas que la zone industrielle.
Voilà, Saint-Quentin-Falavier fait partie du canton de la Verpillière. Sa population est d'environ 6000 habitants. Et notre commune conjugue histoire et modernité parce que la ville a su conserver son authenticité, ses atouts patrimoniaux qui sont quand même toujours mis en valeur. On a le château, on a la maison des Alinches qui sont des sites où de nombreuses manifestations sont organisées. Et en même temps, on a su concilier les exigences économiques et la qualité de vie. La commune a d'abord fait partie du SAN et depuis 2006, fait partie de la CAPI. Et la particularité de Saint-Quentin, c'est que sur son territoire existe une des plus grandes zones logistiques d'Europe. Et le maire actuel, est M. Michel Bacconi.
Depuis longtemps.
Oui. Donc, le jumelage de Saint-Quentin. Saint-Quentin est jumelé avec quelle ville en Europe ?
Alors, avec une ville allemande, Fragericht, qui se situe à peu près à 30 km de Francfort, qui est sur le land de l'ASE, à la frontière de la Bavière, qui, depuis 70, a aussi une communauté de communes, qui regroupe 5 villages, qui sont Altenmittlau, Bernbach, Horbach, Neuses et Somborn. C'est une commune qui compte à peu près 15 000 habitants et dont le maire est Joachim Locas. Et en fait, notre jumelage a commencé d'abord avec une rencontre de jeunes dauphinois et de jeunes allemands en 1967.
Ça, c'est ancien, alors.
Oui. Qui a d'abord été une amitié et qui s'est concrétisée donc en 71 avec un jumelage signé donc en 71 à Fragericht et en 72 à Saint-Quentin. Voilà. Et donc depuis...
Donc une ville allemande,
voilà,
ensuite...
Et une ville italienne, donc Gallicano nel Lazio, donc qui est à 30 km de Rome à peu près, donc comme vous le disiez, donc dans la province de Rome, qui a un centre historique qui date à peu près de l'an 1000.
Et est-ce que c'est une ville qui est... Des fois, on voit des jumelages où les communes se ressemblent.
Oui.
Je pense à Modène et Bardonecchia, par exemple. Ou alors, il y en a qui sont très différentes. C'est la ville de la montagne. Alors, est-ce que la commune italienne ressemble un peu à Saint-Quentin?
De part déjà sa population,
la proximité.
Son patrimoine aussi historique, parce qu'elle a gardé beaucoup de... Il y a d'ailleurs une ville ancienne, un village, qui est, donc avec des voies romaines, un château aussi un peu, donc qui a cette volonté aussi de garder ça, mais aussi de se moderniser, parce qu'en 10 ans, on a vu quand même la ville changer quand même, et puis c'est aussi Gallicano, c'est une ville dynamique et en même temps qui garde ses traditions, notamment des vignobles et des oliviers.
D'accord.
Ils font beaucoup de vin, beaucoup d'huile d'olive, Ils y tiennent vraiment beaucoup. D'ailleurs, de gens, même en appartement, possèdent un petit bout de terrain avec sa petite vigne et son olivier. Donc ça, ça reste des moments très... voilà. Et donc, voilà, une population à peu près de 6 000 habitants. Oui, et voilà, donc qui ressemble, et dont le maire est Marcello Accordino.
Est-ce que ce n'est pas la deuxième base logistique d'Europe ?
Non, pas du tout. Non, à ce niveau-là.
Non.
Pas
du tout.
Voilà.
Alors, l'historique du jumelage avec l'Italie. Donc, on va développer la partie jumelage avec l'Italie, bien sûr. Donc, comment est venu ce jumelage ?
Moi, je vais laisser le dire. Alors, un petit peu, au départ, c'était pas du tout avec l'Italie que le jumelage avait été envisagé. C'était avec l'Espagne. Mm-hmm. Parce que le constat avait été fait que les élèves du collège apprenaient l'espagnol. Beaucoup apprenaient l'espagnol en deuxième langue. Et l'idée, c'était de chercher un jumelage avec l'Espagne. Et puis, on s'est rendu compte que ça faisait loin. À l'époque, les voyages se faisaient en bus. Deux jours de bus, c'était pas envisageable. Enfin, voilà, concrètement, c'était pas envisageable. Donc, du coup, on a contacté l'Association française des communes et régions d'Europe pour chercher une ville italienne plus proche de nous. Il y a eu deux villes qui ont été contactées, une à côté d'Asti, mais qui cherchait une commune qui avait le même...
Les mêmes caractéristiques.
Et c'était une ville viticole.
Ah, bien sûr. Oui.
Voilà, à Saint-Quentin, il y a quelques vignes encore, mais...
C'est plus symbolique que de la région d'Asti. Oui.
Voilà, donc ça avait été abandonné. Après, c'était une station... hivernale dans les Dolomites, mais qui cherchait une station balnéaire. Donc nous avons un étang, mais voilà, c'est de dire que c'est une station balnéaire, c'était pas tout à fait ça.
On peut toujours truquer les photos.
Voilà. Et finalement, c'est Gallicano nel Lazio qui nous a contactés. Parce que du coup, on présentait un petit peu les mêmes caractéristiques, comme l'a expliqué tout à l'heure Fabienne. Il y avait un intérêt patrimonial, ils ont un centre historique, un petit peu comme nous. Et du coup, le premier contact a eu lieu en novembre 2000. Une mini délégation italienne est venue à Saint-Quentin à l'occasion de notre fête traditionnelle d'automne qu'on appelle la soirée choucroute. Voilà. Et en même temps, se trouvait une délégation allemande. Et le contact s'est fait à ce moment-là. Ils ont découvert ce que c'était un jumelage qui existait depuis longtemps. Ça leur a plu. Et et après réflexion, malgré la distance, parce que du coup nous sommes quand même à plus de 1000
km. Ça fait plus de 1000 km.
Le jumelage a quand même été officialisé en mai 2002 en Italie et en juin 2003 à Saint-Quentin-Fallavier.
Vous parliez au départ de changement de pays, on va dire, puisqu'au départ vous parliez de l'Espagne, pour des régions d'études de langue. Et est-ce que dans le comité de jumelage, vous avez des demandes de cours de langue ou pour
On en a eu, oui. Alors on a tenté de le faire. C'est assez compliqué quand même à mettre en place. C'est assez difficile de trouver des personnes qui veulent bien donner ces cours. On a eu notamment au niveau de l'allemand, des profs d'allemand du collège qui sont venus un peu. Enfin, c'était un peu compliqué. On n'avait pas forcément... la réponse à notre demande. Nous, les gens qui voulaient des cours d'allemand, c'était surtout pour pouvoir parler
couramment,
cas pour voir du quotidien. Les profs d'allemand n'avaient pas toujours ça s'est fait quelques fois. En italien, on n'a jamais vraiment tenté parce qu'il y a moins de demandes. Les gens se sentent peut-être plus à l'aise pour parler l'italien que l'allemand. Encore que, on dira après 47 ans avec l'Allemagne, on ne sait pas toujours plus parler l'allemand. Mais avec les Italiens, on se débrouille avec les mains, en tout cas, c'est déjà plus facile.
Je vous disais ça parce qu'on a, nous, de plus en plus de demandes par des comités de jumelage, justement, pour des cours d'adultes. On a plusieurs communes dont les ressortissants viennent prendre des cours d'italien pour adultes, puisqu'on en donne à l'intérieur de l'association pour nos adhérents, uniquement pour les adhérents, on n'est pas centre de formation. Et on sait qu'il y a même certains comités de jumelage qui aimeraient qu'on aille chez eux. On sent, mais on en parlera peut-être en fin d'émission, on sent des demandes parce que finalement, il y a beaucoup beaucoup de communes du Nord-Isère qui sont jumelées avec l'Allier, beaucoup. Quelquefois de façon insoupçonnée, qu'on ne connaissait même pas au départ. Enfin, les communes, on les connaissait, mais on ne savait pas qu'elles étaient jumelées avec l'Italie. Voilà. Oui, donc il n'y a pas du tout de... Parce qu'il y a quelques jumelages, quelquefois, qui sont bâtis sur des... ou soit des personnes qui avaient migré en France, soit pour des raisons professionnelles étaient parties, soit liées à un phénomène ou à un autre. Tout à l'heure, on parlait du travail. Non, là, c'est vraiment une recherche.
C'était surtout essentiellement par rapport aux jeunes, puisque l'idée, c'était quand même d'associer les jeunes à la notion d'Europe.
Ce qu'il ne faut absolument pas oublier dans un comité de jumelage. Bien, on va peut-être...
On peut entendre quelques notes du LASIO.
Quelques notes. On va entendre Antonello Venditti, qui est un des... avec Francesco De Gregori. On pourrait en citer beaucoup de chanteurs de Rome, parce qu'évidemment, chanteurs et chanteuses, comme Gabriele Ferri, Gioiano Marini, De Gregori, Baglioni. Mais là, on va écouter Antonello Venditti, qui... c'est un personnage, Antonello Venditti. Il se présente toujours sur scène avec un chapeau, des lunettes. Donc, il est né à Rome. Il chante depuis les années 70. Il a écrit, au début, il écrivait qu'en dialecte. Après, il a écrit en dialecte et en italien. Il a beaucoup fait de chansons à la gloire de sa ville, notamment Grazie Roma. Et là, on va écouter Roma Capoccia. Alors, là aussi, c'est une sorte d'itinéraire historique à l'intérieur de sa ville, où il parle du Colisée, des monuments de Rome, des rues de Rome. Et donc, le titre Roma Capoccia, comme tu es belle Rome quand tu arrives le soir, que la lune se reflète dans les fontaines, etc., etc. Tout est axé sur sa ville et sur Rome. Roma Capoccia de Venditti.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via, quanto sei bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Yeah.
l'ho scoperta stamattina, io l'ho scoperta.
Donc on est bien sur Couleur FM 97.1, on était avec Antonello Venditti et avec une déclaration d'un amour, amour
à Rome.
À Rome, avec une ville, comme il dit, qui a aussi bien, qui contient tout le bien et le mal du monde entier. Voilà.
Donc on va garder un pied à Saint-Quentin, un pied dans l'Asio. Quelles sont les manifestations du comité de jumelage et puis en même temps les projets de l'année 2015?
Eh bien, au niveau des manifestations, il faut savoir que depuis le début du jumelage de Saint-Quentin avec l'Allemagne, il y a toujours eu des rencontres annuelles qui n'ont jamais cessé. Et du coup, quand Gallicano s'est jumelé avec Saint-Quentin, bah forcément, ils sont rentrés. Voilà. Donc, du coup, nous n'étions plus deux, mais trois.
Donc les réunions ont lieu
en tripartie. En tripartie. Voilà. Et chaque fois, dans une ville. Chaque année, une ville organise une manifestation, à savoir que donc, nous en avons trois récurrentes dans l'année. La fête du jumelage, qui a lieu en général au moment de la Pentecôte. La semaine jeune, qui a lieu pendant l'été, du coup. Et un séminaire de travail qu'on fait uniquement au sein des comités, qui est en principe en février ou mars, du coup, où on discute des manifestations à venir, du comment ça va se passer, etc. Et même si, du coup, l'Italie n'a pas été jumelée tout de suite avec l'Allemagne, parce qu'au départ, c'était juste un pacte d'amitié, en 2012, ils ont enfin célébré leur jumelage également. Donc, vous voyez, finalement, tout le monde y a trouvé son compte. À savoir quand même que les Allemands et les Italiens n'ont quand même pas non plus la même façon de vivre.
Ça se voit donc, dans le nord de l'Italie.
Il aura quand même fallu...
Oui, parce que ce que veut dire Serge, c'est que dans le Haut-Adige, qui est une région italienne, c'est une région de langue germanique.
D'accord.
Et là, par contre, effectivement.
Là, les Allemands sont chez eux.
Oui, ouais. Enfin, disons qu'ils ont des.
Voilà, mais là, c'est vrai qu'il fallait vraiment qu'ils apprennent à se connaître. Ouais. Et donc, c'est vrai que bah, ces rencontres, comme ça, annuelles, leur ont permis de se connaître, de se découvrir, de voir un peu les modes de fonctionnement. C'est pas toujours très évident quand on est. Parce qu'en général, on est quand même 150 à peu près chaque. Donc, voilà. Puis finalement, ils ont concrétisé leur union. En 2012, donc nous avons ces rencontres régulièrement. Plus nous organisons, le comité de jumelage de Saint-Quentin organise donc sa soirée d'automne, qui est une soirée choucroute, mais en fait qui existait depuis déjà très longtemps, qui était vraiment très grande à l'époque. C'était sous chapiteaux et les Allemands venaient, du coup, c'était des très grands moments. Aujourd'hui, on a réduit. Beaucoup. On n'a plus les Allemands, on n'a pas les Italiens non plus. C'est juste une soirée qu'on organise
pour le comité.
Les habitants de Saint-Quentin et les gens extérieurs, voilà, qui est une soirée très agréable au demeurant, et on mange une très bonne choucroute aussi. Donc voilà à peu près.
Et pour 2015.
Alors 2015,
ça se arrive. Passe comment en 2015?
Donc fin février, donc nous rencontrons nos comités de jumelage donc allemand et italien à Berlin, donc pour trois jours. Donc où en même temps nous allons découvrir Berlin parce que en fait on n'a jamais parce qu'on essaye des fois d'aller dans des villes qui sont pas nos villes jumelles
hein. Oui,
en tout cas pour les séminaires de travail
c'est bien.
Donc on va découvrir donc Berlin et puis on va donc travailler hein, à nos projets et voilà. Ensuite donc pour la Pentecôte 2015 donc Saint-Quentin-Fallavier reçoit donc les villes jumelles. Donc ce sera un grand week-end festif. Hein. Alors pour l'instant, mais
le programme n'est pas
pour
arrêté,
l'instant le programme n'est pas du tout arrêté. Il est en pourparlers, voilà.
Des idées peut-être.
Des idées, oui. Alors bon, certainement donc en association, donc déjà avec la mairie, bien sûr, on va essayer de faire participer des associations locales, faire des activités sur Saint-Quentin, faire découvrir notre commune aussi, parce que faut savoir quand même qu'au fur et à mesure des années, les gens qui viennent se renouvellent aussi. Hein,
bien sûr.
Donc on a des nouvelles personnes. Donc voilà. Et puis on a notre grande soirée festive la veille du départ, hein, qui est une grande soirée, un repas dansant. Où, effectivement, bah, du coup, sur les deux jours précédents, les gens se sont rencontrés, connus, découverts. Donc c'est toujours un moment très.
Est-ce
très
que agréable. Ces jumelages anciens ont déjà donné lieu à des unions, des mariages, des unions
Quelques-unes.
Et des unions.
Oui, alors on a.
Oui, peut-être précédé de des unions.
Si, si, on a une jeune Française qui était partie. À Frageericht en stage, je crois, et qui
et elle a allongé le stage.
Voilà, qui est restée, qui travaille, qui est du coup fait partie du comité de jumelage allemand, qui du coup nous sert de traductrice beaucoup. Et voilà, qui depuis longtemps. On a aussi Pascal et Ingrid aussi, Pascal qui était de Saint-Quentin. Et qui aussi, de par le travail des stages sur Frageericht, a rencontré son épouse aujourd'hui. Donc, ça fait déjà quelques années. Mais en tout cas, il y a des relations d'amitié vraiment sincères. D'accord. Depuis.
Et il y a des liens qui se créent en dehors des jumelages.
Oui.
Des...
oui, oui. Ça, c'est. Enfin, nous, on y tient beaucoup, et en même temps, ça se fait quasiment tout seul. On se rend compte que vraiment, oui, il y a les gens.
Le comité lui-même,
voilà.
Il y a des gens.
Et que ce soit aussi bien côté allemand, côté italien. Et il y en a beaucoup qui vivent, du coup, les mariages des enfants, les baptêmes des petits-enfants. Malheureusement aussi les décès, ça, aujourd'hui, voilà. Mais voilà, c'est important pour nous aussi que ça aille au-delà du jumelage. Hein.
La semaine des jeunes.
Et la semaine des jeunes qui aura lieu donc du 26 juillet au 1er août et à Gallicano nel Lazio, donc voilà. Donc 12 jeunes Français, 12 jeunes Allemands, pardon, rejoindront.
D'accord.
Voilà.
Et c'est eux qui font leur programme.
Donc, nous, on en saura un petit peu plus, effectivement, en février, sur ce qu'ils ont prévu. Donc, souvent, on part quelques jours, des fois, en extérieur.
Mais ils le préparent avant, les trois villes
c'est essentiellement le comité organisateur qui,
oui, voilà.
Qui prévoit le programme.
Voilà.
Et qui nous donne, effectivement, comme on vous expliquait, donc on travaille aussi sur des thèmes européens. Donc ça, c'est un travail qu'on fait en amont, une fois que le thème a été choisi. Chaque commune travaille là-dessus et après retransmet les jours au moment des rencontres, etc. Donc c'est aussi du travail pour moindre, certes, mais ça reste. Voilà.
Vous êtes combien dans le comité de jumelage?
Aujourd'hui, on est une vingtaine. Ça réduit.
La moitié.
Quelques-uns.
La moitié.
D'accord.
Voilà.
Classique.
Non, chacun donne un coup de main.
Et vous avez avec les autres comités de jumelage de la région, vous avez des échanges, vous avez des rapports
Depuis deux ans maintenant, on fait partie d'un comité Nord-Isère des comités de jumelage, qui regroupe 8 comités de jumelage. Donc au départ, c'était en fait à l'initiative d'un membre du comité de jumelage de Villefontaine qui voulait un peu connaître les autres jumelages, voir un peu comment ils fonctionnaient, etc. Donc effectivement, elle a contacté bon nombre de comités. Peu ont répondu présents, mais du coup, le petit groupe,
noyau,
là,
quoi.
Voilà. Et donc, on a appris à se connaître, voir comment on fonctionnait. Puis de là est sorti un sous-groupe qui s'appelle le groupe Europe, parce que du coup, une volonté, justement, de voir comment on pouvait, nous, en tant que comité, s'insérer dans l'Europe, comment on pouvait le transmettre aussi et le vivre, enfin, le vivre au quotidien, mais pour le coup...
Pour transmettre l'idée européenne, qu'est-ce que vous organisez?
Donc, on fait des soirées débats avec la participation donc de la Maison de l'Europe de Lyon. Et donc, c'est nous qui choisissons les thèmes qu'on veut traiter. Et donc, une personne de la Maison de l'Europe vient nous parler. Donc, c'est très informel, c'est vraiment très interactif. C'est pas collégial, hein. Vraiment, on exprime ce que nous, comment on voit les choses, ce qui existe vraiment, etc. Et on a organisé deux conférences avec des eurodéputés. Donc, qui était ouvert à tout le monde, hein, une l'année dernière avec...
C'était à Bourgoin.
Voilà, à Bourgoin, avec Madame Grosstête qui était venue. Et nous avions eu Ingo Enpechid, excusez-moi, qui nous a fait une conférence, du coup, qui était très intéressante. Et puis, cette année, là, il y a le 1er décembre, donc avec deux eurodéputés, Madame Grosstête et Madame Guillaume, pour connaître justement le rôle des députés. Et un peu le fonctionnement de tout ça, quoi, qui est
la commission du Parlement,
voilà, qui reste très Villefontaine. Complexe.
Pour
voilà,
à Villefontaine. Pour être tout à fait. Très honnête, j'étais dans les spectateurs et c'est très intéressant. Très intéressant. Sur le fonctionnement de l'Europe, il y a beaucoup de choses à connaître en fait, notamment le rôle de la commission ou du Parlement. Souvent, on ne sait pas où est la limite entre l'un et l'autre. Non, c'est très intéressant.
C'est vrai que notre groupe Europe, en fait, a pour projet de se rendre soit à Strasbourg, soit à Bruxelles, justement pour être au cœur, voilà. Et on aimerait y faire participer aussi nos villes jumelles. Alors ça reste...
C'est un peu plus
c'est très compliqué, sûrement, parce que, à savoir que sur les 8 comités, on n'est pas tous jumelés avec le même nombre de communes.
Oui, parce que dans les villes jumelées, donc il y a Saint-Quentin, La Verpillière...
Mérier, Bourgoin,
Saint-Savin,
Saint-Chef. Et La Verpillière.
La Verpillière.
Excusez-moi.
Il nous en manque.
Villefontaine. C'était 8, non ?
Ah oui, Villefontaine.
Villefontaine, bien sûr.
Saint-Chef. Voilà. Et Saint-Quentin.
Oui, alors Saint-Chef, en plus, c'est Québec, je crois.
Québec, oui, et la Suisse.
Donc, et donc, on peut rappeler le nom de la présidente, qu'on connaît bien.
Enfin, qui n'est pas une présidente.
Qui n'est pas une présidente, parce qu'elle est responsable du...
Parce qu'effectivement, on n'est pas une vraie...
C'est pas une association.
Donc, c'est Louisette Flaché, qui est très investie et porteuse quand même du projet à la base.
Non, mais c'est bien.
Mais voilà, on espère au moins...
Donc, les rapports avec les autres comités de jumelage sont à l'intérieur en fait de ce groupe Europe.
C'est vrai que c'est on apprend vraiment à se connaître et à comparer nos modes de fonctionnement, parce qu'on se rend compte quand même qu'on n'est pas du tout dans la même
Non seulement les autres pays, mais vous-même à l'intérieur de ce groupe, vous n'avez pas la même histoire
du tout,
bien sûr.
Voilà, on fonctionne pas pareil.
Bien, on écoute...
Quelques notes encore du Lazio.
Alors cette fois, Francesco De Gregori, qui lui aussi est né à Rome, qui est un des chanteurs les plus connus en Italie. Je ne sais pas, De Gregori, en France, on dit Brassens, Brailleferré, grosso modo. En Italie, on dit De Gregori, De André Guccini, par exemple. Et Francesco De Gregori, il continue, il chante toujours, il est né en 50. Il avait eu un album en 1975 qui s'appelait Rimmel, et qui, au niveau musical, n'a pas vieilli. Alors, c'est un album où la plupart des chansons étaient souvent interprétées par le public. Je veux dire, interprétées, le sens de la chanson suscitait beaucoup de commentaires différents. On supposait qu'il avait voulu dire « que », parce qu'il procède beaucoup par image. Et là, notamment celle-là, qui est « Quattro cani », alors c'est quatre chiens, qui sont dans la rue. Il décrit chacun de ces chiens, et on a pensé... Que, alors le premier, par exemple, il parle d'un chien bâtard, et on pensait qu'il voulait parler de Venditti, le chanteur dont on a parlé avant, en plus ils se connaissent bien, et qui connaît la faim et la tranquillité. On pensait qu'il parlait de lui. Après, il y a un deuxième chien où on pensait qu'il parlait de Lili Greco, qui était Italo Lili Greco, qui était un producteur de cinéma. Ensuite, il y avait la chienne, qui quelquefois se refuse et quelquefois se donne, et on pensait qu'il parlait de Patti Pravo, qui est une grande chanteuse de variété italienne. Et puis le dernier, un chien de guerre, enfin, qui n'a pas d'os, qui se bat et tout, on pensait qu'il parlait de lui-même, mais le dieu n'a jamais voulu parler de tous ces personnages. Mais c'est intéressant parce que les chiens tels qu'il les décrit là, il y a beaucoup d'analogies avec le comportement humain.
D'accord,
quand même.
Ouais.
Donc on pourrait penser que... Mais en tous les cas, il dit que ce n'étaient pas ces personnages-là.
Ça peut en mettre d'autres, alors.
Voilà, exactement. Donc on écoute « Quattro cani » de Francesco De Gregori.
Quattro cani per strada, Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Quattro cani, le quatrième est un maître ou un patron, il ne sait pas où aller mais il y va. Il va derrière ses frères auxquels il se fie et quelquefois il s'arrête pour s'inspirer, renifler la vie. Voilà. Alors, je crois, vous nous racontiez en antenne une petite anecdote intéressante, Odile.
Alors, simplement, c'est pour les amateurs de symboles. Il est amusant de constater que les trois villes, Saint-Quentin, Gallicano et Fraguerie, se retrouvent dans la représentation d'un animal qui est le coq. Alors, le coq, c'est bien sûr, c'est, pour les Français, c'est un symbole. C'est
universel.
Voilà. Et sur le blason de d'Altenmittlau, donc notre ville allemande, se trouve aussi un coq qui commémore une anecdote historique qui remonte au Moyen-Âge. L'empereur Frédéric Barberousse, qui fut un jour attaqué par des bandits de grand chemin, a été secouru par des paysans de la région d'Altenmittlau. Et pour les remercier, il leur donna le statut de ville franche, Fragericht, oui, en allemand, et les dispense de payer l'impôt en leur demandant simplement comme tribut un coq et une charrette de foin. Et au niveau de Gallicano, le coq est aussi sur le blason de la ville. Gallicano, je crois que ça.
Bah,
Gallo, c'est le coq italien.
Et ouais. Voilà, puisque il semblerait que Gallicano est la contraction de la phrase latine Gallus canit, le coq chante.
Chante, oui, bien sûr.
Donc le jumelage a des, on va dire, puis ses racines au Moyen-Âge, quoi.
Oui, oui. Presque. Voilà.
Gallicano, c'est en fait il gallo canta.
Oui, oui, le chant du coq. Le coq chante.
Et d'ailleurs, on se rend bien compte que nos trois coqs ne chantent pas du tout de la même façon. Oui, et ça, sûr. On s'en amuse beaucoup.
Oui, bien sûr. Voilà. Ben, puisqu'on parlait de votre jumelage, et vous en avez évoqué d'autres, récemment, il y a une revue parisienne qui nous demandait de faire un petit peu le bilan des jumelages dans le Nord-Isère. Et on s'est aperçu qu'il y a une vingtaine de jumelages avec l'Italie. Bon, nous, finalement, on travaille surtout sur cette étude avec l'Italie. Mais beaucoup ont d'ailleurs plusieurs communes, quelquefois donc une commune jumelée. Par exemple, Bourgoin, bon, vous le savez, puisqu'elle fait partie de votre groupe avec Conselice, qui est en Émilie-Romagne. Cessieux est jumelé à une commune des Abruzzes qui s'appelle Civitella Rovetto. Charvieux, Chavagneux avec le Piémont, Nolle. Corbelin avec Campo Ligure, comme son nom l'indique, est en Ligurie. Diemose, qui est pas loin non plus. Castelnuovo Belbo, qui est dans le Piémont. Dolomieu, alors celui-là, on y a participé, est jumelé à Agordo, en Vénétie. Tout ça est parti du fait que Déodat Dolomieu, qui est natif de Dolomieu, c'est le géologue qui vivait à l'époque napoléonienne, a donné son nom Dolomite, en fait, à cette chaîne, puisqu'il avait découvert la Dolomie. Ce sont les Anglais qui les ont baptisés après Dolomite. Donc là, on peut dire que c'est un jumelage sur lequel on avait travaillé. Four, très récemment, vient de se jumeler à Pouziane, en Lombardie, c'est pas loin du lac de Côme. Hérieux, qui est pas loin de chez vous, à Bousnago, en Lombardie aussi. Jardin, qui est dans la région de Vienne, avec Stanghella, qui est en Vénétie. La Verpillière, ben, vous le savez, avec Verolengo, qui est dans le Piémont. Merier, qui est le plus vieux jumelage avec l'Italie de la région, et qui est avec Bossico, en Lombardie. Pontcherui est jumelé avec une autre commune du Piémont. Il y a beaucoup de villes du Piémont quand même. Avec Livorno Ferraris, qui est une ville comme Verolengo d'ailleurs, où on trouve beaucoup de riz. Saint-Just-Chalais-Saint est jumelé à Incisa Scapaccino.
Ce qui est intéressant, c'est que Diemose et Saint-Just se touchent et ils sont jumelés avec deux communes qui se touchent, Verasti.
Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Saint-Marcel-Bel-Accueil, c'est beaucoup plus récent, avec Gosaldo dans les Dolomites, pas loin d'Agordo d'ailleurs, en Vénétie. Donc, vous-même, vous l'avez dit avec Gallica Noden Lazio. Saint-Savin est en pourparler avec San Savino, en Toscane. Alors, ils sont partis sur l'idée du nom de la commune. Hein. Salagnon, avec une ville du Frioul, ça marche bien d'ailleurs, le jumelage de Salagnon, qui est Reana del Royale. La Valédien dont tu parlais tout à l'heure, Rantaine, est jumelée à Itzano en Lombardie. Alors la Valédien, c'est plusieurs communes en fait qui sont jumelées avec Itzano en Lombardie. Vienne avec Udine dans le Frioul, Villefontaine donc avec Salsano également en Vénétie. Puis il y a quelques contacts, disons, comme Ruy par exemple, ou des communes comme ça qui essayent de voir s'ils pouvaient faire un jumelage. Alors après, vous le savez, le jumelage, est-ce qu'il faut qu'il dépende de la mairie? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il dépende de la mairie? Est-ce que ça doit être indépendant? Ben, au début, c'est un petit peu obligé parce qu'il faut le porter, oui. Tout ça, après, si les mairies changent, quelquefois les jumelages ou tombent à l'eau ou d'autres secrets. Enfin bon, voilà. Mais bon, ça fait pas mal de communes, hein, quand même, dans le Nord-Isère, jumelées donc avec l'Italie. Donc voilà, c'était pour les petites
Alors,
statistiques.
On pourrait rester dans le Lazio en parlant d'une recette.
Non, on va peut-être écouter un petit peu morceau de musique avant, puis on redonnera la parole à nos invités.
On finira avec la recette.
Je suis sûr qu'elles ont une recette, pourquoi pas d'époque, on va dire. Alors là, je vais vous faire. Je disais que notamment dans ces communes, il y a sûrement des gens qui viennent de la région de Frosinone. À Bourgogne, il y en a d'ailleurs, Frosinone, qui est donc dans le Latium. Et moi, j'ai découvert à Rovigo cette année au festival Giuliano Gabriele, qui est un jeune chanteur dit de musique traditionnelle, mais avec tout son groupe. Ils sont tous très jeunes, ils ont 22, 23 ans de moyenne d'âge. Et ils sont très bons musiciens. Et là, on va l'entendre dans un chant, Canto degli Emigranti. Justement, c'est un chant consacré aux gens qui ont émigré de Frosinone, et soit aux États-Unis, soit en France, peut-être en Allemagne aussi.
En Argentine.
Même si en Allemagne, c'est beaucoup des Sardes qui émigrent en Allemagne. Et donc voilà, bon, il y a le chant de l'émigrant qui abandonne sa terre. C'est toujours un moment très, très, très douloureux. Voilà. Et puis, il parle de Sant'Antonio dans la chanson, On verra pourquoi peut-être tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Donc on va écouter Giuliano Gabriele pour ce chant pour les émigrants de Frosinone qui partent à l'étranger ou qui sont partis à l'étranger.
Strada mia abbandonata, mote là su, e ogni anno ne vai via via, e ogni anno me ne vai e via via. O quanti passi che da ti marrà su, tante fontane fai, occhi miei. Non so fontane no, ma fele tasso, tasso che mi incassa la vita mia, tasso che mi incassa la vita mia. Io parto per l'America lontana e non so su chi mi porta la fortuna, e non so su chi mi porta la fortuna.
La chanson, il dit que les migrants partent. Alors, il dit l'Amérique. Alors, l'Amérique, c'est aussi pas uniquement l'Amérique en tant que pays.
L'Argentine, hein, ça peut être l'Argentine.
Ah ben, pour les Italiens, c'était beaucoup le Brésil et l'Argentine, de toute façon, ou les États-Unis. Hein. Et il dit, je sais pas où me porte, si j'aurai de la chance. Ou alors, Saint-Antoine essaye de me l'apporter. Voilà. Alors, et ne me laisse pas dans la peine. Alors,
Sant'Antonio.
Une petite précision que vous nous apportiez, là, parce qu'on parlait des communes jumelées et de qui porte le jumelage. Est-ce que ce sont des associations ou des communes elles-mêmes? Et vous nous donniez une petite précision. Vous pouvez la répéter à l'antenne, qui est intéressante.
Enfin, du coup, entre autres pour Saint-Quentin, ce sont essentiellement les communes qui sont jumelées, hein, la commune de Saint-Quentin et Fragueris-Gallicano. Le comité de jumelage est en fait un petit peu le bras armé de la commune pour organiser les animations qui sont mises en place régulièrement. On s'est rendu compte aussi que les fonctionnements étaient un petit peu différents. En Italie, le comité de jumelage est essentiellement composé d'élus de la commune, alors que sur Saint-Quentin, c'est une association, et en Allemagne également, c'est une association qui porte les projets de la commune. Et puis c'est vrai que on a eu de la chance peut-être que les maires successifs en Allemagne et en Italie
ont continué
dans cet esprit de jumelage que connaissait Saint-Quentin, puisque le maire de Saint-Quentin est un fervent du jumelage et apporte régulièrement sa contribution à ce jumelage.
Ben, c'est une précision importante. Alors, on va vous remercier d'être venu, mais vous n'allez pas partir comme ça, hein, puisqu'on est en période de Noël, et je crois que vous avez goûté avec vos amis italiens. Ben, on va découvrir nous-mêmes. Hein,
Allez-y, mais il faudra faire un peu vite.
Non, monsieur. Bon, il n'y a pas de souci.
Donc, c'est un biscuit qui s'appelle le Ciambellone di San Antonio, qui est donc préparé à l'occasion de la fête de la San Antonio, qui a lieu en janvier. Et qui est au-delà d'un gâteau, qui est vraiment une tradition de cette fête-là à ce moment-là. Donc, pour faire vite, pour environ 50 ciambelloni, il nous faut donc 3 kg de farine, 1,5 litre d'huile d'olive, 1,25 litre d'eau chaude et 25 g de levure de bière et de l'anis. Donc, pour commencer, il faut pétrir la farine et la levure avec l'huile et l'eau chaude. Ensuite, on fait une boule avec la pâte et on laisse reposer une nuit entière. Ensuite, on ajoute de l'huile, du sel et on laisse reposer à nouveau 2 ou 3 heures. Il faut beaucoup attendre. C'est un gâteau qui se mérite. Ensuite, on travaille la pâte en petits cylindres que l'on tresse ensuite. Alors, un peu à la façon d'un nœud, mais après, c'est familial. Hein. Chacun a un peu sa façon.
Chacun
donne
sa forme.
Voilà. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ces petites boules, on les cuit dans de l'eau bouillante et on les laisse remonter à la surface. Ensuite, on les fait sécher sur une planche et on les laisse toute la nuit. Et le lendemain seulement, on les fait cuire au four à 180-200 degrés pendant 40 à 50 minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment un gâteau traditionnel
de
ce moment-là.
Pour la San Antonio.
Donc là, il est à l'anis, c'est la base. Après, il y a vraiment une déclinaison. Voilà. Il y en a au vin, au chocolat, à la noisette, enfin voilà. C'est très bon, goûtez-le.
Eh ben, on goûtera en janvier.
Voilà.
ou dans la prochaine manifestation du jumelage.
Oui, éventuellement, on pourra vous en ramener.
Voilà, en tous les cas, on vous remercie d'être venu.
Merci à vous.
Et puis, passez tous de bonnes fêtes, comme nos auditeurs sur Couleur FM, 97.1. Voilà. On se retrouvera en 2015. Et donc, à bientôt à tous.
Au revoir.
Au revoir. Bonne fin d'année.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association Inis Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois. À 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.